notre pays est l'un de ceux qui est le plus intervenu pour protéger et accompagner les jeunes, les travailleurs, les entrepreneurs. Ce quoi qu'il en coûte, je l'assume, car il a permis de préserver des vies et de protéger des emplois. Il nous faudra bâtir ensemble les réponses qui permettront de ne pas en faire un fardeau pour les générations futures.
Qu'adviendra-t-il du quoi qu'il en coûte en 2021 ? L'assumer sans en faire un fardeau, tel est le vœu formulé par le président de la République avant-hier soir à 20h. Sans en dire plus, c'est sûr, on n'avait pas forcément très envie de parler dette Covid, crédit d'impôt et garantie bancaire à la table du réveillon. D'autant que l'espoir arrive, celui du vaccin et donc aussi celui d'un lent redémarrage le plus normal possible de notre économie. Espoir pour 2021, mais alors question, quid de l'accès aux nombreux dispositifs d'aide pour les entreprises dans les prochains mois? Comment débrancher petit à petit, à mesure que l'activité reprendra, les perfusions qui ont permis à des pans entiers de l'économie de tenir malgré tout? Quelle perfusion? Quand? Dans quel ordre? Question extrêmement sensible économiquement et politiquement au menu de cette année pré-présidentielle. Il y a bien un rebond espéré pour 2021, une croissance de 6% après une chute de 11% l'an dernier. Mais pour le moment, rien ne change. Les premiers mois de l'année seront encore difficiles, tout le monde en convient. Le soutien plein et entier à l'économie reste d'actualité. Les taux d'emprunt sont encore très bas. La France s'endette donc à bon compte, mais elle s'endette, s'inquiètent les tenants d'une certaine discipline budgétaire qui compte aussi donner de l'avant en 2021. La commission d'experts spécialement montée par Bercy sur le sujet de la dette présentera ses recommandations dans les prochaines semaines. D'autres débats comme celui sur l'opportunité de relancer ou pas une réforme des retraites ne manqueront pas de venir pimenter 2021. Car oui, il faudra s'y faire. Le quoi qu'il en coûte ne sera pas éternel.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Écho du samedi, le premier de l'année. Et un grand merci en ce 2 janvier à la valeureuse équipe de cette émission, Juliette Gou à la réalisation, Maud Ventura à la préparation, sans oublier Julien Dumont avec nous aujourd'hui en régie. Que de points d'interrogation ce début 2021 sur l'année économique et sociale qui nous attend. Ça commence fort avec ce Brexit officiellement devenu réalité hier. Bonjour Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne.
Bonjour.
Bonjour Fanny Guinochet, éditorialiste économique à France Info.
Bonjour.
Nous allons débattre avec vous des termes de ce divorce. Il vous manque déjà, nos amis anglais.
Oh, on s'y attendait, hein. C'est comme vous l'avez dit, c'est comme dans un divorce. Donc finalement, il y a presque un peu de soulagement quand même. Et puis, on savait, ils étaient un peu particuliers. Ils avaient un pied dedans, un pied dehors.
Oui, écoutez, moi je suis assez anglophile, donc bien sûr que nos amis anglais nous manquent, mais il faut être sûr qu'on va les retrouver à peu près à chaque recoin, chaque coin de bois, pardon, lors de nos différentes pérégrinations économiques et politiques.
On y revient dans quelques minutes. Autre accord, décidément que de traités signés pendant ces fêtes de fin d'année, celui qui fixe de nouvelles règles d'investissement entre l'Union européenne et la Chine. Nous serons en direct de Pékin dans une vingtaine de minutes. En France, le 1er janvier apporte aussi son lot de nouveautés et de réformes. Parmi elles, il y en a une qui a du mal à passer dans le monde du logement, celui du calcul des APL, impayés de loyers en hausse, secteur du logement et de la construction percuté de plein fouet par la crise Covid. Reportage à suivre et la directrice générale d'Action Logement, Nadia Bouillet, nous accorde sa toute première interview depuis sa prise de fonction il y a un mois. Ma vie au boulot, la chronique de Sandrine Foulon. Juste avant 10h, nous parlerons santé au travail. Mais d'abord, place au débat.
Nous avons repris le contrôle de notre destin. Nous avons le contrôle à la virgule près de notre législation.
Boris Johnson, Premier ministre.
À partir du 1er janvier, les lois britanniques seront faites uniquement par le Parlement britannique, interprétées par des juges britanniques dans des cours britanniques. Et la Cour européenne de justice n'aura plus voix au chapitre.
Il n'y a pas de gagnant dans le Brexit, c'est perdant-perdant.
Michel Barnier.
C'est un affaiblissement que de se séparer.
Chef de la négociation avec le Royaume-Uni à la Commission européenne.
Surtout dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, qui est un monde dangereux, instable, où il faut être ensemble, je le pense, pour compter, pour peser par rapport aux États-Unis ou à la Chine.
C'était un accord pour lequel il fallait se battre.
Ursula von der Leyen.
Il permettra d'éviter des perturbations majeures.
Présidente de la Commission européenne.
Pour les travailleurs, les entreprises et les voyageurs, après le 1er janvier, il posera des fondations solides d'un nouveau départ avec un ami de longue date. Il nous permettra aujourd'hui de nous assurer que nous pouvons finalement laisser le Brexit derrière nous. L'Europe continue de s'avancer.
L'Europe est un continent qui est un continent, qui est ouvert et qui accueille. Mais l'Europe sera le premier continent de la planète.
Thierry Breton, commissaire européen.
Qui va se doter de règles extrêmement claires pour protéger ce qui est important pour nous, mais aussi pour éviter les abus de position dominante. C'est-à-dire que pour venir sur notre marché intérieur, il faudra désormais respecter des règles extrêmement strictes. On lui donne des règles. C'est le rôle, encore une fois, d'une autorité politique. On lui donne des règles.
Ça y est, nous ne sommes plus que 27 dans l'Union européenne. La période de transition est terminée. Hier 1er janvier, le Royaume-Uni a donc officiellement pris le large, non sans avoir âprement négocié l'accord de sortie annoncé à Noël. Promis, Londres ne deviendra pas une sorte de Singapour sur la Tamise. Pas de dumping, pas de concurrence déloyale du point de vue réglementaire, social ou environnemental. Fanny, Laurent, est-ce qu'on les croit, nos amis anglais? Laurent?
Bah écoutez, ça a été dur. D'ailleurs, j'aimerais dire une chose, c'est que nos amis britanniques sont restés 47 années dans l'Union européenne et on a mis 4 ans et demi à négocier. C'est-à-dire 10% du temps de présence des Britanniques a été dédié à parler de leur sortie, ce qui est quand même pas rien. Alors ça fait maintenant presque 5 ans qu'on en discute de la sortie. Rappelez-vous, il y a un an déjà, on s'était mis d'accord sur les conditions du divorce. Et cette fois-ci, on se met d'accord sur ce qu'on appelle les termes de la relation future. C'est-à-dire le traité de libre-échange entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, qui est atypique pour au moins deux raisons. D'abord, généralement, quand on fait un traité de libre-échange, c'est pour abaisser des barrières douanières ou tarifaires. Là, c'est pour, au contraire, en remettre. Donc, il y a quelque chose de très atypique dans cette négociation. Il y a une deuxième caractéristique atypique, c'est qu'on parle quand même de volume d'échange entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur 700 milliards d'euros. Donc, c'est une somme absolument considérable. Maintenant, tout n'est pas résolu, au sens où on a laissé de côté de nombreux sujets, la finance, les échanges d'étudiants, les règles sur l'automobile quand elles sont pointues, les reconnaissances de diplômes, etc., etc. Et les deux sujets sur lesquels on s'est écharpé depuis novembre, c'est comment est-ce qu'on organise une concurrence équitable et on en parlera, la pêche.
Alors, on va y revenir dans le détail sur tous ces sujets. Fanny, est-ce que vous pensez qu'on peut leur faire confiance aux Anglais quand ils s'engagent à avoir des relations de bon voisinage avec l'Union européenne?
Alors, je sais que Laurent Bigorne est très friendly avec les Anglais. Moi, j'aurais tendance à être un peu plus méfiante quand même. Effectivement, vous l'avez dit, je crois que le mot divorce est le bon. Un divorce, c'est de toute façon toujours un échec. Maintenant, en fait, ce qu'on a essayé de négocier là pendant ces 4 ans et demi, c'est les modalités, j'ai envie de dire, de la garde alternée du bien commun qu'on avait. C'est des valeurs, la liberté, un certain nombre de valeurs qu'on partage depuis longtemps avec nos voisins anglais, mais c'est aussi l'écologie, le commerce. Et là, moi, je serais quand même peut-être plus mesuré, par exemple sur l'histoire de rajouter des normes. J'attends de voir quelle va être la propension des Anglais à être fiables à la matière, alors qu'ils sont, on l'a vu, beaucoup plus allants sur ces questions-là, que ce soit en matière de finances, les normes environnementales ou des normes de respect d'un certain nombre de critères qui sont importants. L'Union européenne, c'est une machine à fabriquer de la régulation. Je ne suis pas sûre que les Européens enfin, que les Anglais soient à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ils font un peu de provoque, les Britanniques, parce qu'ils disent, on va augmenter les normes, nous aussi, de notre côté, parce que ça marchera dans les deux sens. Par exemple, on pourra augmenter les droits de douane, mettre des droits de douane si vous ne respectez pas un certain nombre de normes, par exemple, sur notre bacon que l'on importe. J'attends de voir ce que ça va donner très très concrètement dans les faits.
Un divorce, un accord perdant-perdant, a dit Michel Barnier. Est-ce que c'est un bon accord malgré tout? Un good deal?
Alors, c'est toujours mieux que pas d'accord du tout. On parlait de la pêche, c'est vrai que les pêcheurs français, et même britanniques d'ailleurs, sont déçus aujourd'hui, mais sans accord, ça aurait été beaucoup plus dur. Sans accord, on parlait du volume d'échange, il y aurait eu des droits de douane, là, il va y avoir des contrôles, mais il n'y aura pas de quotas et il n'y aura pas de droits de douane.
Oui, mais alors la pêche ramenée à tous ces enjeux, Laurent, que vous évoquiez d'ouverture des marchés, ça semble presque en chiffres,
Mais la pêche, c'est un problème non pas anecdotique, c'est un problème qui est politique et social pour pas mal de pays européens, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, c'est un problème sérieux, l'Irlande aussi, mais c'est vrai que c'est un problème qui est rapporté au PIB, à la richesse de l'Union européenne, est assez minimal, c'est 0,1%. 1% de l'économie britannique. C'est à peine 1,5% de l'économie de l'Union européenne. Et il y a aujourd'hui des gens qui pleurent au Royaume-Uni parce que tout n'est pas rose pour eux. Et je suis assez d'accord avec Fanny, il va falloir être très très attentif politiquement à ce qui va se passer en Grande-Bretagne. Parce que quand elle nous dit il y a des acteurs aujourd'hui qui claironnent et qui fanfaronnent comme Johnson et les eurosceptiques, ils ont intérêt à le faire. Mais ils savent très bien qu'ils viennent d'affecter leur économie. Je prends un exemple. Theresa May, l'ancienne Premier ministre, elle a fait remarquer l'autre jour au Parlement, puisqu'elle est toujours députée de l'Ouest de Gondre, qu'il y avait un énorme sujet, c'est qu'on n'a pas traité la City. Et la City, c'est pas, comme la pêche, 0,1 point de PIB, c'est 7 points de PIB. Et avec un risque, c'est qu'aujourd'hui, la City n'a plus accès, pour ceux qui ont un siège, n'a plus accès, tout simplement, au marché intérieur de l'Union européenne pour ses services financiers. Donc, il y a, évidemment, pour la Grande-Bretagne, un énorme sujet. Et j'aimerais dire une chose, c'est que pour la France, cet accord est important pour une raison. C'est qu'aujourd'hui, le commerce entre la France et la Grande-Bretagne, c'est notre premier excédent commercial. Hein, c'est plus 12 milliards en faveur de la France. Donc nous, Français, on avait intérêt à ce qu'effectivement, il y a un terrain de jeu commun qui soit trouvé. Et on va avoir intérêt à suivre ce dossier politiquement.
Après, le marché européen est aussi vital pour les Britanniques.
Bien sûr qu'il est vital. Et je l'ai dit, il est vital pour quantité d'industrie britannique, mais aussi pour les services qui, pour l'instant, sont en dehors de l'accord.
Pour la pêche, je trouve ça difficile de dire, c'est pas grand-chose effectivement, mais symboliquement c'est énorme. C'est même la base du Brexit. Les pêcheurs voulaient retrouver une souveraineté des pêcheurs britanniques, hein, une souveraineté de leur des eaux, de pouvoir pêcher comme ils l'entendaient le poisson. Et aller dire ça sur la côte du côté de Boulogne-sur-Mer, qui vit grâce à ces échanges, ou encore en Bretagne, 40% des navires dépendent de la pêche qu'ils font dans les eaux britanniques. C'est une catastrophe. Alors, Barnier dit, il y aura des aides, on va venir au secours. Mais mettez-vous à la place des pêcheurs en France, c'est pas une filière qui, c'est une filière qui compte, hein, pour nous, de leur dire, vous allez avoir des aides, on va compenser. On parle de 30 000 euros forfaitaires, ça ne compensera pas. Ça va nourrir le déclassement, ça va nourrir le sentiment de perte, y compris chez nous, et c'est le terrain du populisme. Dans les Hauts-de-France, c'est là où Marine Le Pen est implantée. Donc, il y a l'économie, mais il y a tout ce que dit derrière aussi cet accord qui, de toute façon, est un accord vraiment perdant pour les Français.
Côté britannique aussi, question côté politique explosive aussi, dont Boris Johnson a fait un étendard de souveraineté.
Oui, alors quand on regarde ensuite ce que disent les pêcheurs français, vous preniez l'exemple, Fanny, de Boulogne. J'ai regardé Olivier Leprêtre, qui est le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France. Il dit, globalement, le gouvernement a très bien travaillé. Et c'est vrai que l'accord, quand on le regarde techniquement, on va perdre une partie des quotas de pêche que nous avions dans les eaux britanniques, mais ça va être très échelonné, ça va jouer à partir de 2026, et globalement les sommes sont pas considérables, et j'avais plutôt le sentiment que les pêcheurs étaient relativement optimistes à la sortie de l'accord cette semaine.
Alors, à l'intérieur de l'Union européenne maintenant, pour nous, Européens, est-ce que ce Brexit change des choses? Est-ce que ça en change notamment en termes de cohésion entre les États membres vis-à-vis de l'attitude adoptée vis-à-vis de la Grande-Bretagne?
En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une union. Pour le coup, au moment de la négociation, Michel Barnier l'a souligné. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que les Britanniques pariaient. Ils pariaient sur un certain nombre de divisions qui n'ont pas eu lieu. Maintenant, est-ce que ça va permettre de renforcer la cohésion à long terme? Il faudra voir, parce que ce Brexit, en fait, c'est un processus, c'est une tectonique des plaques. On va voir. Est-ce que ça va nous permettre de nous rapprocher, par exemple, avec les Allemands et de faire un couple franco-allemand qui sera plus fort?
Un couple franco-allemand qui vous est cher, Fanny.
Qui m'est cher, mais c'est vrai que ce sera difficile. Dans la mesure où, du côté des Anglais, je le disais tout à l'heure, on a des valeurs communes. Par exemple, du côté de la question, sur la question militaire, on sait que les Allemands, eux, ne vont pas nous suivre. Les Britanniques étaient, enfin, c'est une armée importante, donc il y avait ce sujet-là. Donc, pour l'instant, je pense que ce serait compliqué de dire tout est bien ou tout n'est pas bien. C'est difficile d'avoir une position binaire. Je pense que vraiment c'est un processus, je vous disais, une tectonique des plaques qui se met en place.
La cohésion européenne, un divorce avec les Britanniques, un amour renforcé avec l'Allemagne.
On perd 66 millions d'habitants, on perd 15% du PIB de l'Union européenne. C'est plus la même Union européenne avant et après. Il y a des choses qui vont inexorablement changer. Et comme le disait Angela Merkel, il faut que l'Union européenne saisisse aussi cette opportunité, qui est une sorte de coup de pied aux fesses, hein, pour prendre son destin en main. Vis-à-vis du couple franco-allemand, je suis plus nuancé. D'abord, tout au long de la négociation, on n'a pas eu la même position que l'Allemagne. L'Allemagne a été beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus proche des Britanniques. En tout cas, l'objectif de Merkel, c'était d'obtenir jusqu'à la dernière minute, c'est ce qu'elle a dit, une solution de retrait ordonnée. La position de la France était plus dure, une position à la fois de Clément Beaune, d'Emmanuel Macron, mais aussi de Michel Barnier. Deuxièmement, est-ce que les deux pays sont vraiment en phase? On l'a vu cette semaine sur l'accord avec les Chinois. J'ai le sentiment que les Allemands voulaient vraiment un accord global sur l'investissement croisé entre les deux aires géographiques. C'était vis-à-vis d'une France qui était moins allante. Et est-ce que maintenant, la divergence économique post-Covid, notamment entre les deux pays, va rendre plus facile le fonctionnement du couple franco-allemand? Je n'en suis pas sûr.
Mais sur le plan de relance, par exemple, on peut se dire qu'il n'y aurait jamais eu un plan de relance comme on a mis en place là les 750 milliards d'euros s'il y avait eu les Britanniques dans la discussion. Là, c'est vraiment l'Allemagne et la France. Et ce plan de relance, on va le voir, c'est important pour l'Europe. C'est quand même une mutualisation. Alors, le terme est peut-être galvaudé, mais en tout cas, une mise en commun de la dette. C'est ce qui va permettre aujourd'hui à nos économies de faire face. On parle de l'année 2020 qu'on enterre, mais l'année 2021, vous l'avez rappelé, le quoi qu'il en coûte, il va être là et on va avoir besoin de cette aide de l'Europe, de ces protections européennes.
Oui, mais quand même, le Brexit, il affaiblit quelque part l'Union européenne au moment où elle déclenche son bazooka, comme on l'a appelé, à 750 milliards d'euros, ce plan de relance, au moment précisément où il faut qu'elle soit forte comme jamais.
Il affaiblit, oui et non, parce que dans la roue des Anglais, il y avait les pays frugaux, ceux qui freinent et avec lesquels la France bataille, par exemple. Les Anglais sont beaucoup plus regardants, étaient beaucoup plus regardants sur les conditions. Et puis, au niveau économique, on l'a pas dit, mais c'est une évidence. L'Angleterre n'a jamais choisi l'euro. Enfin, il y a un moment aussi où c'était des alliés très, très particuliers que nous avions.
Ce qui est sûr, c'est que la sortie de la Grande-Bretagne renforce paradoxalement la zone euro, au sens où la zone euro avant la sortie de la Grande-Bretagne, c'était 72% de l'économie européenne. Avec la sortie de la Grande-Bretagne, c'est maintenant la zone euro 85% de l'économie européenne. Donc le cœur du système européen, il sort renforcé mécaniquement. Maintenant, il faut pas se leurrer, Fanny l'a bien dit, un certain nombre d'autres pays ont d'ores et déjà pris le relais des Britanniques dans la contestation ou dans le front ouvert. Y compris d'ailleurs parce qu'ils se cachaient souvent dans les négociations derrière les positions britanniques. Je pense notamment aux Pays-Bas ou à un certain nombre de pays du nord de l'Europe. Mais regardez sur le plan de relance, il a fallu mouiller la chemise, pardon de cette expression, du côté allemand, du côté français, vis-à-vis des Hongrois, vis-à-vis des Polonais, alors qui sont des bénéficiaires très nets hein, du plan de relance, mais qui évidemment patinent sur la question de l'état de droit. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de tensions. Maintenant, je veux quand même insister sur la force de l'Europe. D'abord, le plan de relance, il est accompagné d'un verdissement qui devient de plus en plus fort et d'engagement rehaussé du point de vue de la neutralité carbone à 2050. Et puis, il y a tout ce qui va permettre de rembourser l'argent, les 750 milliards, et tous les moyens nouveaux qui sont mobilisés, taxes carbone aux frontières, taxes GAFA, taxes plastiques. On voit que l'Union européenne avance.
Alors, est-ce qu'elle peut encore remplir ses missions de protection face à tous les défis? Vous parlez des GAFA, face aux États-Unis, face à la Chine?
Moi, j'ai été très attentif à ce qui s'est fait le 15 décembre, quand la vice-présidente de la Commission et Thierry Breton, donc Margrethe Vestager et Thierry Breton, ont présenté les deux nouveaux textes qui vont être soumis à la fois au Parlement européen et aux États membres, le Digital Services Act et le Digital Market Act. On a là des points d'avancée qui sont absolument considérables sur la régulation du digital. Là où, effectivement, on peut avoir un débat, c'est est-ce qu'il fallait signer le 24 décembre, est-ce qu'il fallait signer ou en tout cas agréer cet accord avec les Chinois sur l'investissement? Je pense qu'on est allé un peu vite, y compris pour faire plaisir aux Allemands, et qu'on aurait dû être sans doute plus précautionneux dans l'approche.
Fanny?
Sur le rapport aux GAFAM, en tout cas, le couple franco-allemand, il a marché à plein, alors que les Britanniques étaient moins allants. Donc rien que là-dessus, cette volonté de se protéger de ces mastodontes du web, l'Europe a mis effectivement va aller un peu plus loin et elle va y aller encore un peu plus avec le couple franco-allemand. En revanche, sur l'accord que l'on vient de signer là avec alors c'est un accord de principe hein, pour le moment sur les investissements avec la Chine. Là, attention, là pour le coup, on brade on ouvre l'entrée aux Chinois. En face, on a obtenu que des promesses.
9h32, merci à vous deux. On n'arrête pas l'écho. On part justement en Chine pour parler de l'accord d'investissement conclu cette semaine.
全球新闻中国播报，各位好，欢迎收看这一节中国新闻，我们来看详细内容。
Et en direct de Pékin, le décalage horaire nous est favorable, on en profite, on retrouve notre correspondant Zifan Liu. Bonjour Zifan.
Bonjour.
Alors ça y est, on peut dire que la Chine s'ouvre comme jamais aux investissements européens.
Eh bien, c'est ainsi, en tout cas, que l'accord a été présenté par Pékin. Après des demandes répétées des Européens, la Chine s'est résolue à faire des concessions. Pour la première fois, des groupes étrangers pourront pénétrer le marché chinois de co-entreprise avec une entité locale. Ce sera le cas dans le secteur de l'automobile et de la santé, où des compagnies pourront ouvrir des cliniques entièrement sous contrôle étranger dans les grandes mégalopoles du pays. Mais toutes les barrières ne sont pas tombées encore. Dans les télécoms, par exemple, les investisseurs doivent toujours s'associer à des entreprises chinoises pour pénétrer le marché. La Chine a aussi annoncé la fin du transfert forcé des technologies, une critique récurrente des 27, et a promis également une plus grande transparence dans les subventions étatiques accordées aux groupes chinois.
Et pour la Chine, quel est l'intérêt de cet accord ?
Eh bien, en tout cas, les médias chinois ont poussé un ouf de soulagement à l'annonce de cet accord, car c'est avant tout une victoire diplomatique pour le président Xi Jinping quelques semaines avant l'entrée en fonction de l'administration Biden aux États-Unis. Si la Chine a beaucoup concédé, elle a délimité des lignes rouges à ne pas franchir dans les champs jugés stratégiques comme la recherche et le développement et les secteurs à haute valeur ajoutée. Le président chinois a martelé tout au long de cette année l'importance pour la Chine de viser l'autonomie dans ces secteurs pour réduire la dépendance vis-à-vis du savoir-faire étranger. Un autre objectif annoncé haut et fort par le président Xi est celui d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Avec cet accord, les Chinois pourront investir dans les énergies renouvelables en Europe à hauteur de 5% des parts de marché.
Et Pékin a finalement pris des engagements sur les droits de l'homme et le travail forcé, mais quelle est la portée réelle de ces engagements ?
Oui, en effet, Pékin s'est engagé à des efforts continus et soutenus en vue de la ratification de ces conventions sur le travail forcé, mais rien dans l'accord ne contraint la Chine à suivre ses engagements. Historiquement, le régime communiste est assez sourd à toute critique concernant les dossiers des droits de l'homme, que ce soit sur la question Ouïghour ou à Hong Kong. La Chine dénonce des attaques sur des sujets qu'elle considère comme relevant de ses propres affaires internes. Il faudra certainement bien plus pour faire flancher Pékin.
Merci beaucoup Zifan Liu, en direct avec nous depuis Pékin. Dans une dizaine de minutes, la première interview depuis sa prise de fonction de la nouvelle directrice générale d'Action Logement, Nadia Bouyer. On a beaucoup de questions à lui poser sur l'état du logement social en France, sur le secteur de la construction de nouveaux bâtiments, sur la rénovation des plus anciens. Et sur cette question à laquelle nous avons choisi de consacrer notre premier reportage de l'année, l'impact de la crise sur le logement des Français. Les impayés de loyers sont en hausse. Un témoignage parmi d'autres, celui de Bianca, guide touristique dans les bus à étages, vous savez, à Paris, sans aucune activité, évidemment, depuis de trop longs mois.
Je m'appelle Bianca et je viens de l'Italie, de la Sicile. Et il y a 4 ans et demi que je suis là en France. J'ai décidé de m'installer ici et de faire la guide touristique ici à Paris. Par contre, après cette crise sanitaire, vous avez compris que là, c'est la mort du tourisme. Et donc là, depuis mars, je me suis trouvée en difficulté vraiment énorme pour payer les loyers, surtout à Paris. Vous connaissez que là, les loyers à Paris sont vraiment franchement incroyables.
Là, on est dans votre petit studio.
Vous avez vu là.
Dans le 10e arrondissement à Paris. Donc vous avez 25 mètres carrés, vous payez combien de loyers ?
1100 euros. Je ne me suis jamais trouvée une situation comme ça, de ne pas payer, parce que mon père me disait que les gens les plus riches du monde sont les gens qui n'ont pas de dettes. Et donc avoir des dettes, là, c'est vraiment... Je n'arrive pas à dormir la nuit. Je peux vous montrer tout ça, si vous voulez. Voilà, 5000 quelques euros de dettes. Le truc là que j'ai au tribunal, c'est difficile. J'espère de faire un peu de babysitter. J'essaie de faire aussi d'extra, mais là, il n'y a pas... Tout est fermé.
Bianca bénéficie de quelques semaines de répit grâce à la trêve hivernale, mais les lettres d'huissier sont-elles bien arrivées ? Quel impact de la crise sur le logement et le mal-logement ? Les réponses sont-elles à la hauteur des enjeux ? On poursuit notre reportage avec Bianca et d'autres locataires en difficulté. Claire Chaudière a posé son micro place de la Réunion à Paris dans les locaux de la Fondation Abbé Pierre qui fournit une assistance juridique à ces nouveaux pauvres.
Attends, on va faire le tri, donnez-moi tout ça.
Ok.
Et est-ce que je peux vous demander quelles sont vos ressources ? Par le moment, je suis en chômage.
Donc vous êtes convoqué pour le 26 janvier.
Comme je travaille avec, comme auxiliaire de vie, à cause du confinement, je suis puni. Je suis puni parce que je ne peux pas payer mon loyer.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le dossier le mieux possible. Donc, lundi, vous appelez l'avocate ?
Oui.
Ok. Eh bien, bon courage.
Alors, moi, je suis Samuel Mouchard. Je suis responsable de l'espace Solidarité Habitat. Alors, oui, cette personne qui est venue nous voir ce matin, effectivement, c'est des personnes qu'on voit de plus en plus arriver. Ils arrivent en décalage par rapport à la première crise sanitaire parce que, effectivement, ce sont des personnes qui ont été au bout d'économies, qui ont été au bout du réseau amical, familial, qui a pu aider à un moment donné. La crise sanitaire a aggravé finalement des situations déjà fragiles. Ceux qu'on connaît dans la restauration, dans l'aide à domicile. Et puis les secondes personnes, le second profil entre guillemets qui viennent nous voir, ce sont des personnes qui n'étaient pas du tout concernées jusqu'à présent par des difficultés financières. Des personnes auto-entrepreneuses ou alors qui ont des petites entreprises qui arrivaient à vivre, qui aujourd'hui se retrouvent en grande difficulté. On sait aujourd'hui pour ces personnes que se retrouver sans logement, c'est se retrouver dans des conditions extrêmement difficiles parce que les possibilités de relogement, elles n'existent quasiment plus. L'accueil dans le parc social, il est complètement saturé. On voit qu'il y a de moins en moins d'attributions de logements. Les taux de rotation sont plus bas. L'accès au parc privé est complètement hors de portée pour ces ménages à petits revenus. Donc, c'est des personnes que je vais comparer à des funambules. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un fil et on sait que si on bascule du mauvais côté, on va chuter et que ça va être très difficile de se relever dans les années suivantes.
Éviter à tout prix de chuter, de perdre son chez-soi. Alors le secteur HLM, même s'il est saturé, joue malgré tout depuis mars un rôle d'amortisseur de la crise. Nous voici à Grigny dans l'Essonne où deux quartiers très pauvres se font face. D'un côté la Grande Borne, quartier de logements sociaux où une première vague d'impayés de loyers au printemps a été encaissée en quelque sorte, les locataires accompagnés. Et de l'autre, Grigny 2, quartier d'habitat privé en difficulté et où la situation est aujourd'hui particulièrement glissante, explique le maire Philippe Rio.
Dans le logement social, il y a des thermomètres de la précarité. Les bailleurs connaissent les impayés, ont des moyens d'agir. Il y a eu d'ailleurs pendant la crise la création d'un fonds de solidarité logement spécial Covid de l'ensemble des bailleurs avec les départements. Les bailleurs sociaux ont créé aussi des caisses de soutien. Et par contre, là où il y a un angle mort de la solidarité par le logement, c'est dans les copropriétés fragiles et dégradées de ce pays, où il n'y a ni thermomètre, ni observatoire des impayés, et où la situation est catastrophique. Grigny 2 est à 500 mètres de la Grande Borne, de l'autre côté de l'autoroute du Sud, de l'autoroute A6. Aujourd'hui, concrètement, depuis le mois de mars, les impayés de charges dans la copropriété de Grigny 2, 5000 logements ont bondi de 100% pour ce qui concerne l'eau potable et le chauffage. C'est pour ça que nous avons demandé à Madame la Ministre Emmanuelle Wargon, mais bien avant, pendant le premier confinement, à Julien de Normandie, un observatoire des impayés de charges en copropriété et la création d'un fonds d'urgence pour les copropriétés dégradées, à l'instar de ce qui se passe en logement social. Il y a très concrètement aujourd'hui des problèmes de sécurité, d'ascenseur, sécurité incendie, ça va très vite la dégradation et donc nous devons apporter à ces milliers de nos concitoyens les réponses les plus fortes.
Une vague d'impayés bel et bien en train de monter, donc, même s'il ne s'agit pas encore d'une déferlante, nuance l'Agence nationale pour l'information sur le logement, l'ANIL, qui regroupe de nombreuses antennes locales, les ADIL. Le réseau qui renseigne locataires et propriétaires rappelle que de nombreuses aides existent en cas de dette de loyer ou de charges. Mais vous allez l'entendre, au-delà du dispositif des APL, les aides au logement, uniques sur l'ensemble du territoire, il faut parfois s'accrocher un peu pour savoir à quoi on a droit.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec Roselyne Conant.
Oui, je
vous en prie. Merci. Roselyne Conant, donc je suis directrice générale de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Alors le dispositif en soi, il n'est pas si complexe que ça. S'il y a un gros pépin dans le parcours, on peut saisir le fonds Solidarité Logement.
C'est le département.
C'est le département, exactement, qui peut déléguer à l'EPCI.
À l'intercommunalité.
Voilà. Compléter. Avec des aides de centres d'action sociaux. Compléter, par exemple, si vous êtes salarié d'une entreprise privée, des aides d'action logement. qui est complété si effectivement vous êtes salarié qui cotisez à une caisse de retraite, en particulier à Gircarco, vous pouvez mobiliser aussi des aides jusqu'à 1500 euros.
C'est presque un peu un patchwork d'aides.
C'est des choses qu'on peut cumuler. Voilà. Mais c'est vrai que face à cette multiplicité, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner.
Il n'y a pas eu finalement de nouvelle aide de la part de l'État. Il n'y a pas eu de dispositif exceptionnel d'aide finalement ou d'accompagnement dans cette crise des locataires, des propriétaires.
Ce qui a été mis en place, il n'y a pas qu'en matière de logement. C'est-à-dire que pour payer son loyer, il faut avoir un salaire. Donc les dispositifs de chômage partiel, d'aide exceptionnelle en lien avec l'activité, a permis d'assurer une forme de matelas, d'amortisseur. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas forcément cette vague massive d'impayés, parce que justement, les locataires, bien qu'ils aient des ressources diminuées, ont quand même des ressources.
Mais chaque ménage fait nécessairement des arbitrages, nourriture, transport, logement. Et pour les foyers les plus durement touchés par la crise, les dettes locatives arrivent souvent en décalage. Il faudra en fait évaluer dans les mois qui viennent, début voire mi-2021, l'ampleur des dégâts, analyse Pierre Madec, économiste à l'OFCE. Le risque étant que tout un ensemble d'acteurs soit au final fragilisé.
En prenant le risque d'une explosion des impayés, ce qu'on met en danger, c'est en effet les locataires qui risquent à la fin de la trêve hivernale une expulsion locative, mais c'est en premier lieu des gens qui ont investi dans le logement pour le mettre en location et qui, eux, se retrouvent du coup sans ressources. Des gens qui ont peut-être des emprunts, par exemple, qui sont plus en capacité, eux, de rembourser leurs emprunts parce qu'ils n'ont pas les loyers qui sont versés. Donc il y a toute une chaîne qu'on met en danger avec ce risque d'impayés. Ce qu'il aurait été facile de faire, c'est de mettre en place, au début de la crise, la garantie universelle des loyers. C'est de dire... toutes les personnes qui ne peuvent pas payer leur loyer, l'État prend le risque, paiera le loyer au bailleur. Une fois qu'on a fait ça, l'État est capable, avec les systèmes fiscaux actuels, d'aller voir les locataires mauvais payeurs, comme on les appelle, pour analyser finement leur situation et dire « Bon, vous avez besoin d'une aide de loyer et donc, on efface votre ardoise. Vous étiez en capacité de payer votre loyer. Pourquoi vous ne l'avez pas payé ? On vous fait un redressement comme un redressement fiscal. » L'État, depuis le début de la crise, fait le choix de porter un certain nombre de risques. C'est vrai pour l'activité partielle, c'est vrai pour les prêts garantis par l'État qui sont attribués à un certain nombre de commerçants ou de secteurs. Donc l'État a pris beaucoup de risques. Sur le logement, l'État en a pris très très peu. Alors que, pour le coup, cette mesure de garantie universelle des loyers, elle n'a pas besoin d'être pérenne, c'est pas une loi que vous avez besoin de faire passer. Juste, vous mettez ça en place au début de la crise et puis vous dites on fera les comptes à la fin. Il y a peut-être des petits commerçants qui ont souffert de la crise, qui en même temps sont bailleurs, personnes physiques, de gens qui logent et qui, eux, ont du mal à payer leur loyer. Donc on voit bien que la chaîne, elle est à la fois extrêmement complexe, mais elle est très longue.
Logement, l'autre crise qui monte, c'était un reportage de Claire Chaudière.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10. On n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour Nadia Bouillet.
Bonjour,
vous
bonjour
êtes
à tous.
Vous êtes la directrice générale d'Action Logement. Merci de nous accorder votre toute première interview sur France Inter en ce 2 janvier. Quasiment un mois, jour pour jour, après votre prise de fonction. De nombreux chantiers vous attendent, on va y revenir dans le détail. On le rappelle, Action Logement, c'est un organisme paritaire géré par les partenaires sociaux, syndicats et patronats. C'est l'héritier, pour résumer à grands traits, du 1% logement. Vous avez un rôle de premier plan dans le financement du logement social en France. Alors d'abord, votre réaction au reportage qu'on vient d'entendre, ces témoignages de locataires en difficulté, d'associations débordées par les demandes d'aide, c'est un constat d'urgence économique et sociale que vous partagez ?
Tout à fait, c'est un constat qu'on partage. Alors la vocation d'Action Logement, vous l'avez rappelé, c'est de faciliter l'accès au logement des salariés pour faciliter l'emploi. Et Action Logement, c'est pas seulement un grand financeur du logement social, c'est 1 million de logements sociaux qui sont détenus dans une cinquantaine de filiales en France. Et c'est aussi 550 000 aides qui sont délivrées chaque année et des aides qui sont contractualisées avec l'État. Et ce qu'on observe, c'est que notre aide d'accompagnement des salariés en difficulté, effectivement, elle a été très mobilisée cette année.
Justement, vous avez récemment débloqué une aide exceptionnelle liée à la crise sanitaire et économique que nous traversons. Très concrètement, pour nos auditeurs, comment ça marche ? Qui a droit ?
Alors, cette aide a été mise en place très rapidement à la suite de la crise sanitaire et du confinement du printemps. Donc, elle existe depuis le mois de juillet. Elle s'adresse à tous les salariés dont les revenus, qui ont connu une perte de revenus du fait du confinement ou des mesures de chômage partiel, voire de perte d'emploi. Donc, quand on a...
Chômage partiel ou chômage tout court.
Ou chômage tout court. Donc, des salariés qui se retrouvent avec une perte de salaire de plus de 15% et qui sont eux-mêmes avec des niveaux de revenus en dessous d'un SMIC et demi, c'est-à-dire 1800 euros par mois, ont le droit à une aide de 150 euros par mois pendant 2 mois, qui a été améliorée là, il y a quelques semaines, et qui va jusqu'à 6 mois pour ceux qui ont perdu leur emploi. Et c'est vraiment l'objectif de cette aide, hein, qui est une aide contractualisée avec l'État, c'est de pouvoir prévenir justement ces mesures d'impayés et stabiliser dans le logement l'ensemble de ces personnes, qu'ils soient locataires de notre parc social, du parc privé ou propriétaires qui doivent rembourser des échéances d'emprunt.
Et à votre niveau, justement, cette hausse des impayés de loyer, vous l'observez aussi ?
Alors, au sein de notre parc de logement social, c'est maintenu, c'est contenu. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux, c'est le cas de tous les bailleurs, mais en tout cas les bailleurs sociaux d'Action Logement, ont pu, avec des mesures justement d'étalement des loyers pour les locataires, contenir en fait cette question des impayés parce qu'il y a un accompagnement qui est personnalisé.
Contenir, ça veut dire une hausse quand même.
C'est une hausse très, très faible en fait. En fait, on a vraiment un delta, j'allais dire, de 0,3 points par rapport à l'année dernière. Donc, c'est vraiment très contenu, très limité. Pour autant, il faut rester très vigilant sur l'évolution, justement, de cet indicateur. Et puis, surtout, mettre en place des plans individuels pour pouvoir permettre aux locataires d'étaler quand ils ont des difficultés de financement.
Alors, il y a une réforme importante qui est entrée en vigueur hier, 1er janvier. C'est celle du calcul des APL on rappelle que donc cette réforme elle vise à prendre en compte les revenus actualisés pour calculer le montant des allocations, non plus avec 2 ans d'écart. Les associations, le monde du logement craint que ça les fasse baisser ces APL. Est-ce que vous partagez leurs inquiétudes ? Est-ce que c'est le bon moment de mettre cette réforme sur les rails ?
Cette réforme, elle est prévue depuis longtemps déjà. Donc effectivement, les APL sont calculés sur les revenus actualisés et non plus sur le revenu d'il y a 2 ans. Et donc, il y aura forcément un impact pour tous ceux dont les revenus se sont améliorés. Finalement, ils vont percevoir moins d'aide au logement. Donc là-dessus, là aussi, ça fera partie des points de vigilance par rapport à l'anticipation de cette baisse en fait de l'APL.
C'est-à-dire, ça peut avoir un effet effectivement
diminution
de revenus pour des locataires qui en ont besoin.
Bien sûr. Ouais. Ça va, des personnes qui avaient droit à un APL pendant 1 an encore parce qu'on regardait les revenus de l'année précédente, aujourd'hui, c'est chaque mois, en fait, on va pouvoir avoir un calcul différent de l'APL. Donc,
Alors, on a beaucoup parlé d'Action Logement l'année dernière et comme plusieurs années avant, au moment de la préparation par le gouvernement du projet de loi de finances. On parle du trésor de guerre, entre guillemets, vous n'allez pas être d'accord avec cette expression, dans lequel Bercy compte puiser cette année 1,3 milliard d'euros. Ça veut dire, Nadia Bouvier, qu'il y a tant d'argent que ça qui dort dans vos caisses ?
C'est pas de l'argent qui dort. Faut avoir en tête qu'Action Logement, c'est une institution qui existe depuis près de 70 ans. Et donc, depuis près de 70 ans, qui œuvre pour le logement des salariés. Et, donc là, on est dans un, comment dire, c'est effectivement une contribution qui est faite cette année puisque il y avait un niveau de trésorerie qui était important du fait du décalage, je dirais, de mise en œuvre d'un certain nombre de dispositifs qui avaient été décidés en 2019 et qui ont mis un peu de temps et qui maintenant rentrent en plein régime. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très conjoncturel. Donc maintenant, cette contribution, elle va avoir lieu en 2021 pour, je dirais, contribuer au désendettement aussi de l'État. Donc on participe aussi à l'effort national comme ça. Et les partenaires sociaux conduisent depuis début décembre des négociations avec la ministre du Logement Emmanuelle Wargon et le ministre du Budget pour justement accompagner au mieux la relance qui est devant nous et mobiliser nos fonds pour accompagner la relance et cette sortie de crise et être le plus efficace possible.
Justement, vous qui, dans votre parcours professionnel, êtes passé par la Cour des comptes, vous trouvez cette démarche comment la qualifier, logique finalement?
Ce qui est logique, c'est qu'il faut se donner les moyens d'être le plus efficace possible au service de nos concitoyens. Et là, votre reportage l'a bien montré. Ce qui est important cette année, en 2021, et je pense même pour les prochaines années, c'est cet accompagnement des locataires et des plus globalement des personnes dans le logement. C'est-à-dire que c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser si on veut garder une cohésion nationale. Et c'est en ça que les actions d'Action Logement, qui, je le rappelle, sont vraiment toutes contractualisées avec l'État, doivent être le plus efficaces possible. Donc je pense que c'est vraiment le mot, c'est l'accompagnement, et c'est là-dessus qu'on doit travailler tous ensemble.
Pour remplir ces missions, il faut réformer Action Logement. Des discussions sont en cours. Bon, vous êtes en poste depuis à peine un mois. Est-ce que on sait sur quelle piste vous travaillez ?
Alors, on travaille pour l'instant justement sur ces mesures d'accompagnement pour être le plus fidèle possible à notre mission d'utilité publique, et puis le plus efficace au niveau économique pour notre pays, puisqu'on est un acteur de l'économie sociale et solidaire, et nos interventions, elles ont un rôle d'amortisseur.
On évoquait le 1% en logement tout à l'heure, qui est aujourd'hui, disons-le, devenu le 0,45% en logement.
C'est ça.
Le prorata KMBC, c'est le pourcentage donc de la masse salariale que versent les entreprises pour financer le logement social. Est-ce que ce taux, qui a donc déjà baissé, sera encore amené à baisser dans les prochaines années ?
Pour l'instant, ce taux, il est de 0,45. C'est le cas aujourd'hui. Ce sera aussi le cas l'année prochaine. Donc la question, elle n'est pas aujourd'hui tranchée là-dessus. Mais aujourd'hui, on a cette participation qui est faite par les entreprises de plus de 50 salariés. Donc ce sont elles qui cotisent auprès de nous. Et à partir de ces cotisations, il y a un certain nombre d'aides qui peuvent être délivrées pour les salariés et pour le secteur du logement.
Plus globalement, donc, dans le domaine de la construction et du logement, à vos yeux, quelle trace laissera cette année exceptionnelle de crise que nous venons de vivre?
Alors, il y a deux points importants. Le premier, c'est que les bailleurs sociaux d'Action Logement, mais tout le secteur HLM, ont vraiment joué leur rôle d'amortisseur social. On l'a écouté
dans
le reportage. Mmh. Et ça veut aussi dire que on passe en fait de cette vision où le bailleur social a pour tâche de loger à une vision où il est là pour accompagner aussi ses locataires, accompagner, vivre sous le toit, l'aider aussi à activer un certain nombre de dispositifs. Et je pense qu'il faut vraiment se souvenir de ce qui s'est passé au printemps avec toutes les initiatives qui ont été prises, qui étaient toutes nourries de solidarité, d'attention aux plus fragiles, avec par exemple, quand les bailleurs ont mis en place des appels sortants pour les personnes isolées, les personnes âgées. Ça fait partie du métier du bailleur social, et c'est très important de pouvoir vérifier que ça allait bien, s'il y avait des besoins, de le mettre en lien avec ce que faisaient les communes, ce que faisaient également toutes les associations mobilisées pendant cette période, et le rôle très important des gardiens d'immeubles aussi de nos secteurs HLM, que ce soit par rapport à l'isolement ou par rapport à la prévention de toute la violence intrafamiliale, et le lien avec les associations pour accompagner justement ces personnes fragiles. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'on doit retenir de cette période, et puis agir là-dessus.
Si on veut se projeter sur l'année qui vient, parmi les chantiers prioritaires, il y a aussi la réhabilitation un certain nombre de copropriétés, des travaux qui ont été plus ou moins suspendus par la crise. Cet aspect de rénovation des bâtiments, notamment énergétiques, la Convention citoyenne sur le climat a planché dessus. Vous qui êtes aussi un grand donneur d'ordre, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faille pousser ce chantier en 2021 ?
Alors, on est d'accord, on est pleinement engagé. Déjà, au sein de notre parc de logement, nous allons éradiquer l'ensemble des passoires thermiques dans les deux prochaines années. C'est déjà programmé, les travaux, donc on sera, même si le secteur HLM est plus performant que le parc privé, c'est quelque chose qui est enclenché. Donc,
il faut des normes, des mesures plus contraignantes.
C'est peut-être s'interroger justement, cette période, elle nous a permis de nous interroger sur justement comment vivre dans notre logement, et c'est quoi le logement confortable demain. Et effectivement, le confinement nous a fait réfléchir sur ce pilier de nos vies.
Merci beaucoup Nadia Bouillet, directrice générale d'Action Logement. Merci d'avoir été avec nous en direct. Ma vie au boulot avec vous, Sandrine Foulon. Alors ça y est, Sandrine, c'est la période de tout le monde se souhaite une bonne santé juste avant les fêtes. Les partenaires sociaux ont signé un accord national interprofessionnel sur la santé au travail. Que faut-il en attendre pour cette année?
Vous savez, c'est comme les cadeaux qu'on vient d'ouvrir, Fabien. On dit merci, fallait pas. Cet accord de la santé au travail, on dirait les chocolats que vous offre mamie tous les ans. C'est la même boîte. Il n'y a pas franchement de nouveauté dans ce texte. Oui, il faut faire de la prévention primaire, c'est-à-dire agir concrètement dans l'entreprise pour lutter contre les risques professionnels. Oui, l'employeur a l'obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour protéger la santé des salariés. Le code du travail, la jurisprudence, tout le monde est d'accord là-dessus et l'affirme déjà depuis longtemps. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire et on se demande comment cet accord parviendra à créer la rupture. Les professionnels de la santé l'ont plutôt accueilli poliment, sauf les médecins du travail qui, eux, sont unanimes. Pour eux, l'accord annonce surtout la fin de leur profession. Alors bien sûr, il y a une pénurie de médecins du travail, ils sont moins de 5000 et beaucoup vont partir à la retraite. La profession n'attire plus, elle est souvent critiquée pour son manque d'efficacité. Mais voilà, ces praticiens spécialisés voient d'un très mauvais œil la possibilité pour les médecins généralistes volontaires de les remplacer.
Mais pourquoi pas si ces généralistes sont formés à la médecine du travail ?
Oui, mais ces généralistes ne peuvent pas entrer dans l'entreprise. Ils peuvent constater qu'un salarié a mal au dos et faire un arrêt de travail, ce qu'ils font déjà aujourd'hui, mais ils ne pourront jamais attester des conditions de travail. Ils ne les connaissent pas. Seul le médecin du travail peut le faire. Il a en plus l'avantage d'être un salarié protégé, ce qui n'est pas non plus le cas des intervenants en prévention des risques professionnels, comme les ergonomes. Ils n'ont pas l'indépendance des médecins du travail face à un employeur. Non, le cadeau qu'on aimerait bien finalement, c'est le retour du CHSCT. C'était l'acronyme barbare pour le comité qui s'occupait de l'hygiène, de la sécurité, de la santé au travail. Il a été dilué dans les nouveaux comités socio-économique. Lui, il fonctionnait très bien, trop bien même, c'était la bête noire de certains employeurs, avec les protocoles sanitaires, le télétravail, les risques psychosociaux qui explosent. Il nous manque. La pandémie a bien révélé une chose, la santé. Que toute l'équipe d'On n'arrête pas l'écho vous souhaite bonne pour 2021 est redevenue un sujet capital au boulot.
Et merci Sandrine, et c'est la fin de votre magazine Écho. Rendez-vous la semaine prochaine avec, à ce micro, le retour d'Alexandra Ben Saïd.